Chapitre 6. Le chapitre 6 des Actes vus sous la perspective de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le chapitre 6 des Actes n'est pas simplement un récit annonçant une réorganisation administrative ou le début du système des diacres. Ce chapitre est un tournant très important montrant comment l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sépare l'essentiel du non-essentiel au sein de l'Église de Dieu et crée la structure optimale pour préserver l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il enseigne clairement ce qu'une communauté évangélique, où le péché a déjà pris fin, doit protéger en premier au milieu de l'expansion du ministère. Actes, chapitre 6, verset 1, l'apparition de murmures, est un phénomène qui se produit lorsque la propagation de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'est pas faite avec toute sa puissance. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Dans Actes, chapitre 6, verset 1, un incident se produit où les hellénistes ont murmuré contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution quotidienne alors que le nombre des disciples se multipliait. Ce murmure n'est pas un problème qui a surgi simplement parce que les biens de secours étaient insuffisants ou parce qu'il n'y avait pas d'amour. C'est un phénomène inévitable qui apparaît lorsque la taille de l'Église s'agrandit et que le travail à gérer augmente, faisant en sorte que le poids du ministère se disperse du centre de l'Évangile vers d'autres endroits ou que l'ordre devienne flou. Actes, chapitre 6, versets 2 à 4, la déclaration des apôtres était d'établir la priorité absolue de l'Église. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Les 12 apôtres, affrontant le problème directement, ont appelé tous les disciples et ont déclaré fermement « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ce n'est pas un mépris du service, mais une décision d'établir clairement l'axe central de l'Église. Les apôtres disent qu'ils se consacreront continuellement à la prière et au ministère de la parole, réaffirmant l'essence de leur mission. Ici, la parole ne signifie pas une simple interprétation de la loi, mais signifie l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, accompli par la puissance de Jésus qui a eu les péchés du monde transférés sur son corps par le baptême reçu de Jean, a mis fin au jugement du péché sur la croix et est ressuscité de la mort. Actes, chapitre 6, versets 5 à 6, la sélection des 7 diacres, l'assurance de l'Évangile et le remplissage du Saint-Esprit. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La communauté choisit 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et les présente devant les apôtres. Ici, le remplissage du Saint-Esprit ne fait pas référence à des expériences mystérieuses ou à des capacités extérieures, mais fait référence à l'état de foi d'une personne qui connaît l'Évangile de l'eau et de l'Esprit avec précision et qui est dans l'assurance de l'effacement du péché par la foi. C'est parce qu'une personne pour qui l'élimination du péché n'est pas confirmée mélangera inévitablement sa propre justice lorsqu'elle assumera un ministère et finalement, il y a un risque de faire dégénérer la communauté de la grâce pour qu'elle redevienne une communauté légaliste. Actes, chapitre 6, verset 7. Le résultat décisif, le rétablissement qui se produit lorsque la parole devient vigoureuse. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Le chapitre 6 des Actes, verset 7, rapporte « La parole de Dieu se répandait de plus en plus ». Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Une croissance aussi étonnante n'est pas due à une bonne organisation ou à des systèmes, mais est un résultat qui est apparu parce que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a retrouvé la place centrale de l'Église. En particulier, le fait que des sacrificateurs qui étaient liés au système sacrificiel répétitif aient obéi à l'Évangile prouve la puissance possédée par la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui a mis fin au péché du monde une fois pour toutes. Actes chapitre 6, versets 8 à 10, Étienne, celui qui témoigne de la puissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme un événement réel. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Étienne, l'un des sept diacres, étant plein de grâce et de puissance, accomplit de grands prodiges et miracles parmi le peuple. Il n'était pas un simple administrateur ou bénévole, mais un témoin témoignant avec assurance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Lorsque des gens de la synagogue se sont levés et ont discuté avec Étienne, ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. C'était parce que le message qu'Étienne prêchait n'était pas une philosophie humaine, mais l'événement réel du salut de Jésus qui a accompli la loi. Actes, chapitre 6, versets 11 à 15, le contenu du faux témoignage, la réalité de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui met fin au système de la loi. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Les gens ont suborné des hommes pour rendre un faux témoignage, disant « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu ». La raison pour laquelle les membres du Sanhédrin ont accusé Étienne en disant « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi » est parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit met réellement fin à la foi centrée sur le temple, à la structure des sacrifices répétitifs et au système consistant à essayer d'obtenir la justice par la loi. À ce moment-là, le visage d'Étienne était « comme celui d'un ange », ce qui montre la paix au sein de l'évangile dont jouit une personne qui n'a absolument aucune raison d'être condamnée. En conclusion, le chapitre 6 des Actes avertit du fait que les problèmes à l'intérieur de l'Église ne surviennent pas à cause de la croissance du ministère lui-même, mais lorsque le centre de l'Évangile est ébranlé. Le service ne peut pas remplacer l'Évangile et ne doit être qu'un outil servant l'Évangile. Parce que tous les péchés ont déjà pris fin par le baptême de Jésus, l'Église a établi l'Évangile avant le travail et s'est développée de manière ordonnée sur ce fondement. C'est exactement la façon dont l'évangile de l'eau et de l'esprit bâtit fermement l'Église. Un sermon de Paul Sijong. La parole du chapitre 6 des Actes, versets 1 à 15, semble en surface traiter de l'organisation et des problèmes administratifs de l'Église. Mais en réalité, c'est un passage qui montre clairement par quoi l'évangile est préservé et par quoi il est répandu. Si nous lisons ce texte du point de vue de l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous croyons et prêchons, il est révélé que le secret de l'Église primitive, devenant plus solide tout en traversant des conflits internes et des crises, n'était pas une simple mesure administrative, mais le fait qu'ils n'ont pas perdu le centre de l'Évangile. Lorsque les disciples se multiplièrent, une plainte s'éleva où les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution quotidienne. C'était un problème de distribution en surface, mais fondamentalement, c'était un défi spirituel testant quel était le centre de l'Église. Au milieu des difficultés concrètes qui surviennent lorsque l'Église grandit, il est important de s'assurer que le service et l'entraide ne repoussent pas la place de l'Évangile. Les apôtres l'ont traité fermement, disant que « il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables ». Ce n'était pas peser l'importance du ministère, mais une décision réaffirmant que l'Église est une communauté vivant par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, que le péché a été transféré par le baptême de Jésus-Christ et que le jugement a été terminé par le sang de la croix. Les apôtres ont ordonné de choisir sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse et ont proclamé qu'ils se consacreraient uniquement à la prière et au ministère de la parole. La plénitude dont il était question ici ne signifie pas la personnalité individuelle ou le leadership, mais signifie un état où le cœur est rempli de l'assurance de l'Évangile, où le problème du péché est résolu. Une personne qui a obtenu de l'assurance devant Dieu en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ne fait pas du service son propre mérite, de sorte que lorsque de telles personnes servent la communauté, le service ne devient pas une cause de conflit mais le fruit abondant de l'Évangile. En conséquence, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Le fait que la parole soit devenue vigoureuse est la preuve que l'Évangile n'était pas obscurci, et qu'il vivait et respirait au centre de l'Église. En particulier, même les sacrificateurs qui étaient à l'intérieur du système strict de la loi ont déposé leur autorité et en sont venus à obéir devant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui résout réellement le problème du péché. Cela montre que l'Évangile est la seule vérité qui libère toutes les âmes au-delà d'une classe spécifique. Étienne, l'un des sept diacres, était plein de grâce et de puissance et accomplissait de grands prodiges et miracles parmi le peuple. Mais la raison pour laquelle les gens étaient réellement perplexes était à cause de la sagesse de l'Évangile qu'ils possédaient. Ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait, et cette sagesse était l'assurance venant de la clarté de l'Évangile selon lequel Jésus a pris sur lui tous les péchés au fleuve Jourdain et a reçu le jugement sur la croix. La proclamation de celui qui connaît la vérité avec précision finit par rendre silencieux l'apprentissage humain superficiel et possède une autorité qui ne vacille devant aucun argument. Ceux qui s'opposaient à Étienne subornèrent des hommes pour rendre un faux témoignage disant « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu » et le traînèrent au Sanhédrin. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit est voué à toujours entrer en collision avec le système religieux centré sur le temple ou centré sur les œuvres. Car il proclame que le salut est accompli dans le ministère de Jésus-Christ et non plus dans le temple qui est un bâtiment ou dans des sacrifices répétés. Parce qu'une telle déclaration ébranle les droits religieux acquis, Étienne en est venu à faire face à une résistance féroce et à de fausses accusations. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, virent que son visage leur parut comme celui d'un ange. Cette tranquillité n'est pas simplement le résultat du contrôle des émotions, mais la lumière de gloire que seule une personne pour qui le problème du péché est complètement terminé peut posséder. Une personne qui a déjà été justifiée devant Dieu ne ressent pas de condamnation même devant les fausses accusations du monde ou la menace de mort, de sorte qu'elle peut faire, preuve d'une assurance semblable à celle d'un ange. C'est exactement l'apparence réelle d'une personne qui possède l'Évangile accompli par le baptême et la croix de Jésus-Christ. Le chapitre 6 des Actes nous éveille aujourd'hui au fait que la réponse aux problèmes de l'Église ne réside pas dans la restructuration, mais dans la récupération du centre de l'Évangile. Il montre que le service ne peut pas remplacer l'Évangile et ne doit découler que de l'intérieur de l'Évangile, et que le remplissage du Saint-Esprit n'est pas une expérience mystérieuse, mais l'assurance dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Lorsque l'Église garde fermement cet évangile, chaque crise devient plutôt un canal pour prouver l'Évangile et les saints peuvent vivre une vie pleine d'assurance, comme Étienne dans n'importe quelle situation. Questions et réponses sur le chapitre 6 des Actes. Première, quelle est l'œuvre que l'Église, la communauté où sont rassemblées les personnes qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit parmi celles de ce monde, doit accomplir? Le cœur de cette question est le suivant. Il s'agit de savoir dans quel but existe l'Église, où sont rassemblées les personnes qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'Église n'est pas un simple rassemblement, mais une communauté qui préserve, témoigne et révèle le salut déjà accompli. Numéro 1. L'essence de l'Église est l'œuvre de préservation de l'Évangile. La première mission de l'Église est de garder l'Évangile. Avec le temps, les gens se concentrent facilement sur la forme plutôt que sur l'essence, et le zèle, l'organisation ou les activités peuvent devenir le centre. Cependant, l'Église qui croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit doit placer le baptême de Jésus, le sang de la croix, et ce salut accompli au centre. Empêcher la structure de l'Évangile, comment le péché a été transféré, comment ce péché a été jugé, et pourquoi le salut a été accompli une fois pour toutes, de devenir flou, est la mission fondamentale de l'Église. Si l'Évangile est corrompu, l'Église perd sa raison d'être. Numéro 2. L'essence de l'Église est l'œuvre de prédication de l'Évangile. L'Évangile ne s'arrête pas à la préservation, mais doit être témoigné. Dans le monde, il y a encore des gens qui souffrent du problème du péché. Et il y en a beaucoup qui vivent une vie de foi sans assurance au milieu d'efforts religieux. L'Église doit leur proclamer le salut déjà accompli. Elle doit prêcher non pas une structure répétitive de résolution du péché, mais la structure de l'expiation accomplie. L'Église n'est pas une organisation qui rassemble des gens, mais un canal qui révèle l'Évangile au monde. Numéro 3. L'œuvre de montrer une vie vécue au sein de l'Évangile. Ceux qui croient à l'Évangile ne restent pas simplement comme des personnes qui connaissent la doctrine. Cet Évangile doit être révélé dans la vie. Il doit devenir une communauté où la grâce précède la condamnation, où il y a de l'assurance plutôt que de l'anxiété, et où le service apparaît plutôt que la compétition. L'Église qui croit à l'Évangile n'est pas un groupe se vantant de sa propre justice, mais une communauté confessant la grâce. Si l'Évangile est vrai, il libère les gens, et cette liberté doit apparaître dans la vie réelle. Numéro 4. L'œuvre de transmettre l'Évangile avec précision à la génération suivante. Avec le temps, l'Évangile est facilement simplifié ou déformé. Il y a un danger de ne souligner que la croix, de manière fragmentaire, ou de retourner à une foi centrée sur les œuvres. L'Église doit enseigner clairement pourquoi le baptême de Jésus est important, pourquoi la croix est le lieu du jugement, et pourquoi le salut a été accompli une fois pour toutes. L'œuvre d'établir la génération suivante pour qu'elle comprenne la structure de l'Évangile avec précision est très importante. Numéro 5. Le but de l'Église n'est pas la taille. Rassembler beaucoup de monde n'est pas le succès en soi. Et la taille de l'organisation ne prouve pas la mission. La norme de l'Église réside dans le fait de savoir si l'Évangile est au centre, si cet Évangile est prêché sans changement et si les saints se tiennent sur cet Évangile. L'Église n'est pas une institution en compétition avec le monde, mais une communauté témoignant du salut de Dieu. En conclusion, l'œuvre que l'Église, où sont rassemblées les personnes qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, doit accomplir est de garder l'Évangile, de prêcher l'Évangile et de révéler la vie vécue au sein de l'Évangile. La puissance de l'Église ne réside pas dans le zèle, mais dans la clarté de l'Évangile. L'Église n'est pas un lieu qui crée quelque chose de nouveau, mais un lieu qui proclame le salut déjà accompli. Tant que ce centre n'est pas ébranlé, l'Église ne perd pas son but d'existence. Deuxième, des choses comme le soulagement de la pauvreté, la justice sociale, les mouvements pacifistes et les mouvements d'intégration religieuse que font les églises de ce monde sont-elles des choses que le Seigneur désire? Cette question est très importante. Parce que c'est un problème de savoir comment distinguer entre la mission de l'Église et la responsabilité sociale. Ce n'est pas simplement un problème de savoir si c'est une bonne œuvre ou non, mais il faut discerner si c'est la mission essentielle de l'Église. Numéro 1. Le soulagement de la pauvreté et les bonnes œuvres en eux-mêmes sont bibliques. La Bible n'ignore jamais l'œuvre de s'occuper des pauvres. Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte et réprimande la foi qui se détourne d'un frère dans le besoin. L'Église primitive a également comblé les besoins de chacun et aidé les saints en difficulté. L'amour doit sûrement apparaître à travers la vie. Par conséquent, on ne peut pas dire que le soulagement de la pauvreté ou les bonnes œuvres en eux-mêmes sont mauvais. Le problème réside dans le fait de savoir s'ils remplacent l'Évangile ou s'ils sont un fruit de l'Évangile. Numéro 2. La mission première de l'Église est l'Évangile. La mission la plus essentielle que Jésus a confiée à l'Église était le commandement de faire des disciples de toutes les nations. Jésus n'est pas venu comme un activiste politique pour résoudre tous les problèmes sociaux du monde, mais est venu pour résoudre le problème du péché. Si l'Église place la réforme sociale au centre et repousse l'Évangile à la périphérie, à ce moment-là, l'Église perd sa mission originelle. Le soulagement de la pauvreté et la justice sociale peuvent être importants, mais ils ne peuvent pas remplacer l'enlèvement du péché et le salut. Numéro 3. Les limites de la justice sociale et des mouvements pacifistes. La justice et la paix sont des valeurs bibliques. Cependant, changer la structure du monde ne signifie pas que la nature pécheresse humaine disparaît. La Bible dit que le problème fondamental des humains est le péché avant la structure. Si le péché n'est pas résolu, un autre conflit peut survenir même au milieu des mouvements pour la justice. Si l'Église se combine profondément avec les idéologies politiques du monde, il y a un danger que l'Évangile devienne progressivement flou. Numéro 4. Le problème du mouvement d'intégration religieuse. Le mouvement d'intégration religieuse parle de paix et d'harmonie à l'extérieur, mais il ne peut éviter la question décisive de savoir si l'Évangile est la seule voie de salut ou l'une des nombreuses voies. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. L'évangile n'est pas une idée capable de compromis, mais la seule voie de salut. Si l'on dilue l'unicité et la singularité de l'évangile au nom de l'harmonie interreligieuse, on perd l'essence de l'évangile au lieu de gagner la paix. Numéro 5. Le problème de l'équilibre. Cela ne signifie pas que l'Église doit être complètement coupée du monde. Tout en plaçant l'évangile au centre, le fruit de l'amour doit apparaître dans la vie. Le problème est la priorité. L'évangile doit être le centre et les bonnes œuvres doivent être le résultat. Si l'évangile disparaît et que les mouvements sociaux deviennent le centre, il est difficile de considérer cette Église comme une communauté évangélique. En conclusion, le soulagement de la pauvreté, la justice et la paix ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Cependant, ils ne peuvent pas être la mission essentielle de l'Église. L'œuvre la plus centrale que le Seigneur a confiée à l'Église est de prêcher l'évangile de l'élimination du péché. L'Église n'est pas une institution qui rend le monde parfait, mais une communauté qui conduit les pécheurs au salut. Les bonnes œuvres peuvent être le fruit de l'évangile, mais ne peuvent pas remplacer l'évangile. En fin de compte, la norme de discernement est la suivante. Cette œuvre rend-elle l'évangile plus clair, ou obscurcit-elle l'évangile de l'eau et de l'esprit ?